Vous écoutez RFI, il est 8h30 à Paris, 6h30 en temps universel. Le journal avec Sébastien Duhamel. Bonjour Sébastien.
Bonjour Marion, bonjour à toutes et à tous. Et la une ce matin, cette sortie très remarquée de l'ex-président de RDC, Joseph Kabila. Après avoir vu son immunité parlementaire levée par le Sénat à Kinshasa, depuis son exil, il publie un discours sur Internet annonçant son arrivée prochaine à Goma et affirmant qu'il est temps de mettre un terme à la dictature en RDC. Vous l'entendrez et on décryptera ensemble bien sûr. Lui s'est rendu aux autorités américaines, le Camerounais Eric Thanos Tato, visé par la justice américaine pour son soutien aux séparatistes anglophones. Pour obtenir des soutiens et pour tenter de faire libérer l'opposant tchadien Succès Masra, son ancien directeur de cabinet s'est rendu à Libreville. Atomini Belleri a été reçu par Gilberto da Piedad Verissimo, président de la commission de la CEAC. Libre à son tour, enlevé aux côtés du défenseur kényan des droits de l'homme Boniface Mwangi lundi en Tanzanie, l'avocate ougandaise Agathe Ratouahir a été retrouvée libre également selon sa famille. Le décès d'un grand réalisateur, alors que le Festival de Cannes s'apprêtait à lui rendre hommage hier, 50 ans jour pour jour après qu'il a reçu la Palme d'Or, le réalisateur algérien Mohamed Lartar Amina nous a quittés. Il avait 95 ans. Cannes, où le festival se poursuit et où la cérémonie de clôture est tout de même attendue. Ce soir, on ira sur place. Environ 24 heures, c'est donc le temps qu'il aura fallu à Joseph Kabila pour préparer sa réponse depuis l'étranger. Après que le Sénat congolais a levé son immunité parlementaire avant-hier, car la justice militaire souhaite le poursuivre pour complicité avec l'AFC M23, eh bien l'ex-chef de l'État a publié hier une vidéo de 45 minutes sur Internet, un discours dans lequel il critique vertement l'action du président Tshisekedi sans le nommer directement. Joseph Kabila, je vous le disais, estime qu'il est temps de mettre fin à la dictature selon ses mots. Il assure par ailleurs qu'il se rendra dans les prochains jours à Goma, la capitale du Nord Kivu, contrôlée depuis janvier par les éléments de l'AFC M23. Je vous propose de l'écouter directement, Joseph Kabila.
Il convient de dénoncer la falsification de l'histoire par ceux dont le jeu pervers dans l'opposition naguère, comme aujourd'hui au pouvoir, a consisté et consiste encore à calomnier, à diffamer, à diaboliser, à se défausser sur les autres, pour justifier leur contre-performance. S'il en fallait encore, vient de nous en être donné une fois de plus. Il y a quelques jours, en effet, suite à une simple rumeur sur ma prétendue présence à Goma, où je veux me rendre dans les prochains jours, le régime en place à Kinshasa a pris des décisions arbitraires, avec une légèreté déconcertante qui témoigne du recul spectaculaire de la démocratie.
Voilà, vous venez donc d'entendre un extrait de la vidéo diffusée hier par Joseph Kabila, l'ex-président de RDC, qui était en fonction de 2001 à 2019. Je vous le rappelle maintenant, on va prendre un peu de recul, on va prendre le temps de décrypter un peu tout ça avec notre envoyée spéciale permanente à Kinshasa. Et la première chose qu'on peut dire ici, Pauline Azidi, ça faisait un moment que Joseph Kabila ne s'était pas exprimé de cette manière, depuis qu'il a quitté le pouvoir en fait.
6 ans qu'il ne s'était pas directement adressé aux Congolais. 6 ans de prise de parole au compte-gouttes au travers de quelques interviews, de micros tendus et de paroles rapportées par ses proches. Joseph Kabila dit briser ce long silence parce que l'enjeu est de taille, non pas pour ma famille, encore moins pour ma modeste personne, mais plutôt pour la nation congolaise. Fin de citation. Un long discours où il dresse un bilan sans concession de la gouvernance de son successeur, sans pour autant le nommer Félix Tshisekedi. Il évoque un pays gravement malade, devenu un espace de non-droit, un État failli, divisé, désintégré, au bord de l'implosion. La dictature doit prendre fin, estime l'ancien président, et d'avancer 12 points clés, parmi lesquels arrêter la guerre, neutraliser tous les groupes armés, rétablir les libertés fondamentales, réconcilier les Congolais. Chacun doit jouer sa partition, je m'engage à jouer la mienne, conclut-il, sans donner plus de détails, laissant souffler le chaud et le froid. Il se dit à la fois militaire prêt au sacrifice suprême, tout en affirmant son engagement pour la démocratie, la cohésion nationale, la paix, et la stabilité. Pauline Azedi, Kinshasa, RFI.
Accusé par les États-Unis de soutien aux séparatistes anglophones du Cameroun, le ressortissant camerounais Eric Thanos Tatto s'est rendu aux autorités américaines. Et cela après avoir été mis en accusation par un jury fédéral de Baltimore dans l'état du Maryland où il est installé. Eric Thanos Tatto, un nom synonyme de violence au Cameroun. Des violences commises en particulier à la fin des années 2010, au début des années 2020, Amélie Tulé.
Eric Thanos Tatto se fait connaître sur les réseaux quand la crise prend une tournure violente et que des groupes armés prennent les armes pour revendiquer l'indépendance du Cameroun anglophone qu'ils appellent Ambazonie. Colbert Quayne, journaliste à Bamenda, se souvient.
Il est entré en scène en 2017. Il était l'un des leaders en exil, incitant et encourageant la jeunesse à agir. Il coordonnait des attaques, même depuis l'étranger.
Eric Thanos relaie aussi les appels aux journées villes mortes et au boycott des écoles gouvernementales, se fait connaître sous le pseudo Gary Master, nom de code choisi pour désigner des mutilations, et collecte des fonds pour financer des attaques. Mais depuis, sur le terrain, la donne a changé. L'influence des leaders en exil n'est plus la même. Les groupes armés se financent par l'extorsion et les kidnappings contre rançon. Aré Elvis Tui, analyste senior pour International Crisis Group.
Cela semble être une étape importante, mais je crains qu'elle n'arrive un peu trop tard. Depuis deux ans, on n'entend plus beaucoup parler d'Eric Thanos concernant les combats sur le terrain. Mais même si cela est tardif et que les groupes armés se sont en quelque sorte restructurés différemment, il est toujours très important que les gens soient conscients qu'il faudra, quoi qu'il arrive, rendre des comptes maintenant ou à l'avenir.
Aux États-Unis, s'il est reconnu coupable, Eric Thanos encourt 15 ans de prison pour le soutien matériel aux groupes armés, plus 5 ans de prison pour chaque communication menaçante pour laquelle il sera jugé.
Amélie Tulé, le Cameroun et son élection présidentielle d'octobre 2025 qui se prépare dans cette optique. L'opposant Cabral Libi a été désigné candidat de son parti, le PCRN. Il a été choisi par le bureau politique de sa formation à l'occasion d'un congrès de son parti hier près de Yaoundé, en présence de plusieurs figures de l'opposition. Au Gabon, démission en cascade au sein du PDG, le parti fondé par Omar Bongo, incarné ensuite par Ali Bongo, chassé par un coup d'État en août 2023. Après la démission collective courant mai de la majorité des cadres du parti de la province du Wolentem dans le Nord, hier c'était au tour de l'ancien Premier ministre Paul Biogemba de claquer la porte alors que c'est lui qui avait pourtant dirigé le parti durant la transition. Des démissions qui interviennent dans la perspective des élections législatives et locales prévues en septembre. Une mini tournée en soutien à l'opposant tchadien Succès Masra, le président du parti Les Transformateurs, ex-premier ministre de la Transition, mis en examen cette semaine à N'Djamena pour incitation à la haine. Mais son entourage dénonce un dossier vide de substance et pour le faire savoir, l'ex-directeur de cabinet de Succès Masra, Hatomini Beleri, s'est rendu à Libreville au Gabon. Il a été reçu par l'Angolais Gilberto Dapiedad Verissimo, président de la commission de la Communauté économique des États d'Afrique centrale. À Libreville, compte rendu d'Yves Laurent Goma.
À la sortie de cette audience avec le président de la commission de la CEAC, Hatomini Beleri explique avoir entamé cette mini-tournée pour présenter aux dirigeants de la région la version des transformateurs, le parti de Succès Masra, sur la situation de leur président, aujourd'hui en détention, après son inculpation pour incitation à la haine.
Nous sommes là surtout pour leur dire qu'il s'agit en réalité d'un procès politique. Et nous avons foi totalement dans le fait qu'ils vont prendre leurs responsabilités, aller vers le président tchadien, plaider cette cause-là pour que surtout, non pas que quelqu'un ait raison sur l'autre, mais pour que la stabilité revienne dans l'urgence au Tchad.
Le président de la commission de la CEAC, Gilberto Dapiedad Verissimo, a été la cheville ouvrière de l'accord de Kinshasa signé en octobre 2023 pour acter la réconciliation entre Succès Masra et le pouvoir de N'Djamena. Hatomini Beleri demande sa bénédiction pour les prochaines étapes de sa mission.
Ce que nous envisageons, c'est de pouvoir aller vers le président en exercice de l'Union africaine, le président angolais, et ensuite rencontrer également le président Tshisekedi pour leur demander d'intervenir pour que la quiétude, la paix et la concorde nationale reviennent au Tchad.
Gilberto Dapiedad Verissimo ne s'est pas exprimé après avoir reçu le représentant de l'opposant tchadien, Yves Laurent Goma, Libreville. RFI.
Elle était aux côtés de Boniface Mwangi, ce défenseur kényan des droits de l'homme, enlevé lundi en Tanzanie et retrouvé libre finalement dans son pays. Vous l'avez peut-être entendu sur RFI. La militante et avocate ougandaise Agather Atuhaire a elle aussi été enlevée en même temps, tous deux, comme Boniface Mwangi était venu à Dar es Salaam pour assister au procès de l'opposant tanzanien Tundu Lissu. Et elle a
également été retrouvé libre près de la frontière où les services tanzaniens l'auraient abandonné, selon sa famille. Récit Gaël Alex.
C'est vers le poste frontière de Mukula qu'Agater Atouahir a été abandonné par ses ravisseurs dans la nuit de jeudi à vendredi. D'après Godwin Toko, membre de l'organisation de défense des droits de l'homme Agora, elle est rentrée hier à Kampala où elle a pu retrouver son fils. Les proches d'Agater Atouahir restent discrets sur ses conditions de détention mais confirment qu'elle a subi de graves tortures. La militante ougandaise avait été arrêtée avec Boniface Mwangi, défenseur kényan des droits de l'homme, libéré un jour plus tôt. Hier, sur les réseaux sociaux, il a donné plus de détails sur les tortures subies. Les yeux bandés, Agater Atouahir et lui ont été battus, parfois dénudés. À chaque coup reçu, il devait remercier la présidente tanzanienne Samia Suluhu. Ces enlèvements ont provoqué une véritable vague d'indignation en Afrique de l'Est. Hier, l'organisation de la société civile Chapter 4 Ouganda a annoncé son intention de soutenir tous les efforts pour obtenir justice. Le réseau panafricain de solidarité des dirigeants progressistes, qui regroupe une cinquantaine d'organisations, a écrit à l'Union africaine et aux communautés d'Afrique de l'Est et d'Afrique australe afin de demander une enquête. Gaël Alex Nairobi, RFI.
C'est à croire qu'il a presque choisi le moment de sa sortie, car le timing est pour le moins incroyable. Alors que le festival de Cannes s'apprêtait à lui rendre hommage 50 ans, jour pour jour, après qu'il a reçu la Palme d'Or pour son film Chronique des années de braise, le grand réalisateur algérien Mohamed Lardar Amina s'est éteint hier à l'âge de 95 ans à son domicile d'Alger. C'est sa famille qui l'annonce. Il était le doyen des lauréats de la Palme d'Or, le seul cinéaste arabe et africain couronné à Cannes d'ailleurs. Et hier, avant même l'annonce de sa mort, son fils Malik était à notre micro RFI pour évoquer la personnalité de son père et ses souvenirs.
C'est une palme d'or qui lui a ramené énormément de reconnaissance à travers le monde. Et il en a bien profité de sa palme d'or. Il a su vraiment la gérer. Par contre, il n'a pas assez fait de films, je pense. Il le dit, il est feignant. Pourquoi il n'a pas fait de films? Parce qu'il a aussi, je dirais, fait un peu de politique. Il a eu une vie politique, il est dans un système socialiste un peu à la façon soviétique à l'époque, avec qui il n'était pas d'accord, mais lui, il préférait être dans le système. Il m'a toujours dit « je ne compte pas le système » en étant dans le système.
Malik Lardar Amina, le fils de Mohamed Lardar Amina, qui nous a donc quittés hier, mais le festival de Cannes, lui, se poursuit tout de même. La cérémonie de clôture et le palmarès sont attendus ce soir sur la Croisette. Le jury, présidé par l'actrice Juliette Binoche et comptant notamment dans ses membres le documentariste congolais Dieudo Amadi, décernera ses célèbres prix. Un événement suivi à travers la planète. Plus de 4000 journalistes présents en provenance d'environ 90 pays. Et parmi eux, quelques professionnels d'Afrique subsaharienne à l'image de David Hervé Onla, fondateur du site culturel en ligne Oxygène Mag, basé au Burkina Faso. Notre envoyé spécial Sophie Torlotin l'a rencontré pour nous.
Ils sont peu nombreux à Cannes, les journalistes du continent, et encore plus rares, ceux qui sont invités par le Festival de Cannes.
Le journaliste qui se déplace tous les ans depuis 5 ans, à partir du Burkina Faso, c'est moi seul.
Le Camerounais David Hervé Onla, installé au Burkina Faso avec son site culturel en ligne Oxygène Mag.
J'ai rencontré un confrère ivoirien qui est là, c'est vraiment peu. Parce qu'ils se disent que c'est coûteux, et puis quand ils viennent, ils s'intéressent beaucoup plus à tout ce qui est africain. Mais nous, ce qui fait un peu la patriotique, moi je viens, c'est pas seulement le cinéma africain qui m'intéresse. Moi je suis venu couvrir l'événement, le Festival de Cannes en général.
Et ce choix généraliste, visiblement, plaît aux internautes.
Ils connaissent déjà tous ceux qui viennent d'Afrique, ce qui les intéresse, moi j'ai remarqué. Et surtout les off, la plage, comment est-ce que les artistes viennent sur le tapis rouge, le red carpet, un reportage sur un film que j'ai vu de Spike Lee par exemple, ils ont aimé.
David Hervé Onla voit également les films en compétition pour la Palme d'Or et l'un de ses 22 longs métrages l'a remué.
J'ai beaucoup aimé Sirette. C'est vrai que la fin, elle est un peu triste, mais c'est ça aussi le cinéma. Depuis que je viens à Cannes, il y a des films où à la fin, tu es vraiment déçu. Mais c'est ça qui remporte la Palme d'Or. Et beaucoup au Burkina, en Afrique, on ne connaît pas ça.
Verdict ce soir pour Sirat et les autres longs métrages en compétition du 78e Festival de Cannes. Sophie Torlotin, Victor Hull, Cannes, RFI.
Et c'est justement avec Sophie Torlotin qu'on suivra ce soir en direct la cérémonie de clôture à Cannes sur RFI. Rendez-vous à partir de 18h en temps universel. Pour l'instant, on retrouve Marion Casanova.